Des livres plein les oreilles. Je me souviens d'une fois où je faisais visiter le stade olympique de Montréal à une amie française. De visite ici, en visite à Montréal. Et puis soudain arrive une armée de colosses en rouge et bleu face à nous. C'était l'équipe des Alouettes de Montréal qui revenait d'une séance d'entraînement qui avait eu l'air d'être bien éprouvante, à moins que ce soit un exercice de pré-saison, c'est possible aussi. Toujours est-il que les Charbonneaux, Cahoun et autres boulets que je croisais semblaient bien épuisés. J'étais devant mes héros. Oui, mes amis, on peut être une littéraire et regarder le foot canadien et américain régulièrement, à cette époque-là du moins. Alors, imaginez ma joie, aujourd'hui, de pouvoir converser avec lui et pour vous, avec Étienne Boulay, ce battant du foot et ce battant sur le terrain de sa vie également. Vous savez, il faut le vouloir d'entrer dans le monde du foot quand on mesure pas 6 pieds. Et puis, il faut le vouloir se sortir du monde de la dépendance. Peu importe la taille que l'on fait. Ça, c'est un autre combat qu'Étienne Boulay a mené et gagné après plusieurs essais. Il va nous en parler. Et bien sûr, je vais également poser plusieurs questions à son biographe Marc-André Chabot, qui est également au téléphone. Tout ça dans quelques minutes, juste avant vous dire qu'à l'émission, il sera également question d'Ernest Hemingway. Il y aura des nouvelles et des nouveautés. Et vous dire aussi que je m'appelle Clotilde Seille, que je vous souhaite la bienvenue dans l'univers du livre audio à l'émission Des livres pleins les oreilles, une émission relayée par Canal M, CKVL, et qu'on peut aussi écouter en balado-diffusion. D'abord, direction Les Moineaux. J'aime les oiseaux!
J'aime les oiseaux! Nous sommes le 25 novembre 2012. Le centre Rogers de Toronto semble sur le point d'exploser. Ils sont plus de 50 000 fans déchaînés, sautant et hurlant leur joie. Le bruit est assourdissant. C'est l'apothéose. Le stade tremble de toute sa structure. Des confettis tombent du ciel par milliers, enveloppant les joueurs et les fans qui ont envahi le terrain dans un brouillard bleu et blanc surréaliste. Sous cette pluie de papier, devant les caméras des médias qui courent dans toutes les directions, les joueurs des Argos se sont rassemblés. Ils s'étreignent et se sautent dans les bras, après avoir remporté la 100e Coupe Grey de l'histoire, au bout d'une saison difficile. Pour eux, c'est l'aboutissement ultime d'une longue quête dont seuls les athlètes de haut niveau savent le prix. Eux seuls connaissent la douleur et les sacrifices qui mènent à cet instant inoubliable. C'est pour ça qu'ils se sont battus depuis des semaines, des mois, des années. C'est pour ce moment unique qu'ils ont lutté toute leur vie. Et là, ils y sont. Ils la portent enfin au bout de leurs bras. La victoire. Au milieu de ce chaos fantastique, un joueur reste à l'écart, le numéro 27. Étienne Boulay est debout, seul, les yeux dans l'eau. Son regard bleu fixe l'horizon, comme s'il espérait quelque chose, comme s'il attendait quelqu'un, comme s'il cherchait déjà sa route pour la suite.
À l'époque, il n'était plus avec les oiseaux, mais avec les Argonautes. Bonjour, Étienne Boulay.
Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir.
De rien. Ça vous fait quoi d'entendre ça?
C'est toujours un moment émouvant. Quand Marc-André a écrit cette portion-là de la biographie, ça a été pas mal le point culminant. Là. Tu sais, la fin d'une époque, puis le début d'une nouvelle qui était pas mal moins intéressante pendant tout le temps. Donc, c'est toujours un peu avec émotion que je revis ces moments-là.
Je n'en doute pas et j'ai été moi-même très ému en lisant ça. Alors, Marc-André Chabot, vous êtes là aussi?
Bien sûr, je suis là.
Marc-André, bonjour. Je suis ravi que vous ayez aussi accepté mon invitation à cette émission, oui, littéraire, où il me fait plaisir de parler de destins différents. Et Dieu sait, hein, Marc-André, si le destin d'Étienne Boulay a été un destin. Le parcours d'un battant, j'adore ce titre. Est-ce qu'il est de vous?
Il est d'Étienne, en fait.
Il est d'Étienne. Eh bien, bravo, ouais, Étienne. Ouais.
On cherchait quelque chose qui représentait vraiment Étienne qui était accrocheur, puis on a brainstormé un peu, puis Étienne est arrivé avec avec ça. Puis Étienne, tu me corriges moi, mais je pense que c'était aussi le titre de ta conférence.
Oui, effectivement. J'avais commencé déjà à me promener puis à partager mon histoire, que ce soit dans les entreprises, dans les écoles. Puis c'était le titre qu'on avait donné, puis on trouvait ça cohérent de rassembler tout sous le même nom, là.
Alors, écoutez, d'abord aussi préciser pour les auditeurs, Marc-André Chabot, réalisateur à la télévision. Marc-André, vous avez beaucoup travaillé entre autres avec Julie Snyder, mais avec tellement d'autres. Vous avez réalisé les testeurs aussi. Étienne Boulay est associé à cette aventure-là. Et vous avez rédigé cette biographie. Vous êtes aussi auteur. Vous avez sorti un bouquin l'an dernier, hein?
Ben oui, tout à fait. En fait, c'est un vieux rêve que j'avais d'écrire un bouquin. Quand est arrivée cette idée-là? De biographie d'Étienne, pour moi, c'était une chance de mettre le pied
à l'étrier,
d'avoir un éditeur à l'écriture et ça. Puis ça a été tout un apprentissage. Puis j'étais content de le faire avec Étienne, avec mon ami à côté de moi pour me supporter là-dedans. Mais humainement, de vivre ça, là, d'écrire la biographie, parce qu'Étienne, c'était d'abord et avant tout un ami.
Oui.
Et j'avais été témoin, j'avais été carrément un personnage dans certains passages de sa vie qu'on relate. Ça me mettait dans une position vraiment privilégiée
Pour écrire
cette biographie-là. Alors, j'ai été choyé.
Alors,
si vous me permettez de rajouter un petit quelque chose.
Mais bien sûr.
Marc-André s'est mis énormément de pression. Puis, tu sais, pour sa première aventure, moi, je savais qu'il y avait une plume extraordinaire. Puis, au départ, cette idée-là est venue. On parlait de vouloir redonner à d'autres des gens qui m'avaient aidé, puis que mon histoire puisse être utile à d'autres personnes. Ça venait donner un peu un sens, si on veut, à mes niaiseries. Puis, puis on a parlé au départ de faire un documentaire, puis Marc-André a eu le flash, puis s'est dit, Étienne, le travail de recherche d'entrevue qu'on va devoir faire pour le documentaire, c'est la même chose que pour une biographie. Donc, on pourrait sortir deux œuvres avec le même temps de préparation.
Oui.
Il me dit, permets-moi de t'envoyer un prologue puis me dire comment tu penses, parce que j'aimerais ça. Et j'ai été absolument chaviré.
Absolument.
Je l'ai lu 50 fois, ce prologue-là. Puis celui qu'on a dans la biographie, il est tel quel.
Ouais.
Et ça a été phénoménal. Mais Marc-André s'est mis beaucoup de pression parce que il me connaît. Moi, je trouvais ça important que ce soit lui qui le fasse aussi, parce que je savais qu'il allait pas y aller doucement non plus avec moi. Je voulais pas une biographie où je suis la pauvre victime.
Non,
de moi.
Non, les choses sont dites très clairement.
Mais première aventure littéraire avec Marc-André de se lancer dans la biographie d'un ami, je pense que c'est mis beaucoup de pression à vouloir vraiment livrer un bon texte, puis clairement, il l'a fait. Là.
Alors.
Et on avait fait le deal de début, Clotilde, avec Étienne, on s'est dit, OK, on va le faire. Et si on le fait à fond, on ne sera pas complaisant.
Bien sûr. Et pas de complaisance. Alors, permettez qu'on revienne un petit peu au début. Je cite ce qui est écrit dans le livre. Quand on a un petit garçon aussi débordant d'énergie, on a intérêt à lui faire brûler de l'essence en quantité. C'est la seule façon qu'elle a trouvé, votre maman, pour vous empêcher de grimper au mur et de sauter au plafond. Les premiers départs explosifs d'Étienne Boulay n'ont pas lieu sur un terrain de football sous le regard d'entraîneur. Il se passe dans la cour arrière. Puis maman qui vous dit, allez, cours, Étienne, cours.
Mais c'était une question de survie, je pense, pour elle, de faire dépenser de l'énergie. Mais je me souviens, puis on en rit dans les soupers de famille quand on en parle, mais elle était tellement dépassée par mon énergie qu'elle prenait une balle de tennis comme un chien, puis elle lançait pour que je parte courir le chercher. Puis la vie a fait en sorte que j'ai des enfants pareils aujourd'hui.
Mes questions.
Oui, ça c'est le karma. Puis je me dis, je pense que j'ai tout brûlé mon énergie dans ma jeunesse, parce que là, j'arrive plus à rattraper les miens.
Quelle phrase, parce que je vous remercie d'avoir souligné toutes les qualités d'auteur de Marc-André. Je reviendrai pas là-dessus plus longtemps, mais entre autres cette phrase qui est la reprise remarquée de vous. J'ai été un gladiateur qui descendait dans l'arène pour me battre à mort une fois par semaine sous les acclamations de la foule. Et là, je donnais tout, je me défonçais. Et je me disais, en lisant ça, je me défonçais. C'est tellement un témoin peut-être de ce qui va se produire ensuite.
Oui.
Je veux dire, cette défonce, vous vous êtes défoncé aux drogues et à l'alcool avec la même puissance et la même volonté que celle de vous défoncer sur un terrain. Est-ce que j'ai tort?
Non, vous avez raison. Puis en fait, ce que je réalise, c'est que, clairement, je suis quelqu'un d'excessif et ce trait de personnalité-là m'a permis d'atteindre de haut niveau puis d'avoir un certain succès, de réaliser des choses dont je suis très fier. Ce que j'avais pas vu venir, par exemple, c'est que ce trait de personnalité-là est à double tranchant. Oui. Donc, ça a aussi fait en sorte que je me suis autodétruit pendant longtemps. Puis, encore aujourd'hui, tu sais, j'ai 37 ans, mais bon, ça va faire bientôt 4 ans que je suis sobre, que je me suis repris en main. Mais je demeure quand même excessif dans tout ce que je fais. Ce que je dis, là, en bon français, j'ai pas de dimmer. C'est à on ou à off. Il n'y a pas de zone grise. Puis, ultimement, à partir du moment où tu sais ça, mais là, tu as des outils pour essayer de gérer ça. Mais Marc-André l'a bien exprimé aussi.
Oui. Ah oui, permettez-moi, Étienne. Il a écrit, oui, c'est le Rocky Balboa de la toxicomanie. Ça, quand même, j'ai trouvé ça pas mal épatant comme Marc-André. C'est lequel qui rigole?
Marc-André a une façon avec les mots qui est spéciale, mais moi, l'analogie que j'allais, ou en fait la citation que j'allais sortir, c'est que Marc-André fait référence à la bête.
Oui, mais oui.
Puis ça, c'est bon, c'est pour signifier mon trait excessif. Puis cette bête-là, je l'aime. Parce que cette bête-là m'a permis d'atteindre justement des sommets. Fait que je pouvais pas lui tourner le dos juste comme ça quand ça commençait à être négatif. Puis c'est ça, c'est qu'ultimement, c'est pas tant de la dompter parce que cette maladie-là va rester plus forte que moi à tout jamais, mais c'est d'apprendre à vivre avec puis de rester loin des terrains glissants.
Absolument. Alors, Marc-André, oui, vous vouliez ajouter quelque chose?
Ben, en fait, oui, je trouvais que c'était vraiment ce côté-là qui me fascinait. De me rendre compte que la même bête qui a failli emporter mon ami complètement, bon, mettre fin à sa vie, c'est le même monstre qui avait fait soulever la Coupe Grey à plusieurs reprises, qui avait fait réussir une carrière chez les pros. Alors, comme dit Étienne, on peut pas un jour décider qu'on la renie, cette bête-là. Elle nous a tout donné. Mais en même temps, maintenant, elle nous entraîne avec la même violence, avec la même furie vers le bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, juste ça, je vous en parle, j'en ai encore des frissons.
Ah oui, absolument.
Alors, il faut apprendre à vivre avec. Tu peux pas la tuer, tu peux pas l'envoyer, tu peux pas t'en séparer, tu lui dois trop. Ouais. Mais comment on vit avec cette fureur-là? Puis comme dit Étienne, aujourd'hui, ce qui est merveilleux de voir, c'est qu'il y a cette même énergie-là, cette même fougue. C'est un rêveur, c'est un gars qui a toujours 100 000 projets et qui les mène à fond tout le temps. Il n'y a pas deux vitesses avec Étienne.
Et vous avez eu, Étienne, la même fureur à vouloir devenir, vous qui étiez plutôt un gabarit assez chétif, pour ne pas dire frêle. et vous avez mis... Non, mais c'est vrai, la même... Vous avez travaillé parce que... Vous savez, je vais être très honnête, j'imagine qu'on a dû déjà vous le dire, Étienne, et là c'est au joueur de foot que je vais parler, moi qui ai adoré, qui aime encore ce sport-là, mais peut-être moins, je trouve maintenant qu'il y a moins de gens attachants là-dedans, en tout cas ça c'est mon problème à moi, mais à l'époque des Calvillo, Charbonneau, Caoun et compagnie, moi je trouvais qu'il y avait une famille là, et j'ai découvert ce sport-là, mais très honnêtement, je suis aussi fanatique de soccer et de rugby, et je me disais, bon, ces gars-là, ok, ils fournissent un gros effort, mais enfin, ça dure un petit peu, quoi. Tu sais, ils jouent quoi, 20 secondes, tu sais, hop, unité spéciale, 10 secondes, et hop, ils repartent. Je me suis dit, ouais, c'est quand même pas le même effort que de rester et courir pendant 45 minutes sur un terrain sans arrêter. Je reconnais mon erreur, je vous le dis tout de suite. Mais quel travail pour en arriver là! Quel boulot!
Ouais, ben en fait, au niveau, vous avez raison, en termes, si on pense juste en termes d'endurance, des joueurs de soccer vont dépasser beaucoup plus à ce niveau-là. Par contre, là, je veux pas rentrer dans les termes de kinésiologie, mais le foot, c'est un sport anaérobique. Alors que les joueurs de soccer vont être peut-être à 50-60% de capacité pendant une longue, longue, longue période, nous, on va être justement dans le tapis à 100 000 à l'heure pendant 7 secondes. Après ça, on a une petite pause, un autre 7 secondes, puis on fait ça pendant 4 heures. Donc, c'est aussi fatigant en bout de ligne, mais bref.
Qu'est-ce que c'est les mat drills? Les mat drills?
En fait, je suis content qu'on parle de ça parce que le football, t'as un match par semaine seulement. Parce que c'est très, très dur physiquement. C'est un sport qui est très agressif, qui laisse évidemment des séquelles partout sur le corps, surtout quand on a un petit gabarit comme le mien. Mais un match par semaine signifie que la préparation et l'éthique de travail devient extrêmement importante. Les mat drills, c'est une série d'entraînements hivernaux, donc pendant la saison morte, où là, nos entraîneurs, la saison n'est pas avant plusieurs mois et nos entraîneurs s'en donnent à cœur joie. Mmh. C'est des entraînements qui sont violents, qui sont complètement fous et qui, probablement dans les règles actuelles, ne passeraient plus.
C'est vrai, hein? Mais il y a beaucoup de choses qui devraient ne plus passer et je voudrais qu'on y revienne, je voudrais qu'on parle des commotions cérébrales. Avant, on va écouter un autre extrait, puis ensuite je voudrais me tourner vers Marc-André et pour qu'il nous parle certainement de la même fougue qu'a eu Étienne à participer au testeur. On va d'abord écouter un autre extrait et ça s'adresse au bélier que vous êtes, Étienne Boulay. Et vous savez comment s'appelle celui qui a lu votre livre?
Mais c'est Marc Bélier.
C'est Marc Bélier.
Je vais vous en parler tantôt.
Ça devait être un des plus beaux jours de sa vie. Il devait se sentir lui aussi emporté par l'extase de la victoire et brandir la Coupe Grey avec ses coéquipiers qui célèbrent cet événement historique. Ce moment de grâce a été son but depuis tant d'années. Et il y est. Pourtant, Boulay est seul. Ceux qui le connaissent et qui voient ses images défiler à l'écran savent trop bien que sur ses joues, ce ne sont pas les mêmes larmes que celles qui ruissellent sur les visages des autres joueurs des Argos. Étienne est épuisé. C'est l'unique chose qu'il ressent pour l'instant. Isolé au milieu de toute cette liesse, il est à bout. Il est perdu. Il sait qu'il vient de jouer son dernier match. Sa carrière de joueur de football professionnel vient de se terminer. Sa vie tombe en morceaux. Sa femme Zoé et leur petit garçon de 15 mois sont partis. Il ignore quand il le reverra. Son corps est brisé. Il joue blessé depuis la saison dernière et les commotions cérébrales ont laissé leurs traces. Il abuse sans retenue des opioïdes depuis déjà trop longtemps. Avec tous les effets néfastes qui accompagnent la surconsommation de ces puissants analgésiques qui gèrent les douleurs du corps, mais pas celles de l'âme. Il ne sait plus qui il est vraiment. D'aussi loin qu'il se souvienne, il a construit sa vie avec Étienne, le joueur de foot, le kamikaze, le héros invincible, son plus beau rôle. Maintenant, il va devoir inventer le reste de son histoire avec l'autre Étienne, l'homme ordinaire, le mortel, celui des zones d'ombre et des travers humains, celui qu'il fuit depuis si longtemps. Il sait que plus rien ne sera comme avant, qu'il est arrivé à la croisée des chemins. Il devra se regarder en face. Ou fuir encore et encore.
Quelle belle lecture, hein?
Ouais, c'est...
Ah, mais quelle voix!
C'est touchant, hein?
Oui, tout à fait. Moi, c'est un des premiers chocs que j'ai eu en entendant les passages du livre qu'on a reçu. C'est d'entendre quelque chose que j'avais écrit, mais que je me répétais dans ma tête, et de l'entendre avec l'émotion lue comme ça,
c'est fantastique.
C'est très émouvant.
Avec les pauses là où il faut. Et... Alors, Marc-André, il faut que je vous avoue une chose. Autant je connais bien le milieu, en tout cas le football, j'adore ça, autant je ne connaissais pas les testeurs, je ne sais même pas de quoi on me parle. Et là, je m'excuse. Là, c'est... Alors, j'ai lu, évidemment, dans le livre, mais honnêtement, je suis passée plus vite sur ces... Je me suis dit, il va m'expliquer, il testait quoi les gars? Il faisait comme des expériences, c'est ça, avec Patrice
Exactement.
Bélanger?
Exactement, on testait tout en fait.
L'endurance, tout ça?
Tout, l'endurance, le rire, ça allait dans toutes les directions.
C'est vrai.
C'était une émission jeunesse à VRAC TV, mais c'est là où Étienne et moi on s'est connus, avec Patrice Bélanger que je connaissais déjà. Et ben, c'est un peu... inspiré d'une mode de show télé qu'il y avait à cette époque, Mythbusters ou Testé sur des humains. On trouvait des choses rigolotes et on se nourrissait beaucoup aussi des propositions que les jeunes nous faisaient, écrivaient sur notre site. On aimerait ça savoir, par exemple, si c'est vrai que les taureaux voient rouge ou foncent quand on leur montre du rouge, par exemple. Et ça, c'est un des premiers tests qu'Étienne a fait. Puis là, j'ai compris qu'on avait un animal entre les mains.
Oui, parce que lui, il a des
contacts. De tous les plaqués que j'ai encaissés en 19 ans de football, je me suis jamais fait ramasser autant que par un taureau au tournage des testeurs dans un tonneau rouge.
Mais par contre, vous avez agi comme taureau, Étienne Boulay, beaucoup pour certains.
Oui,
et votre
oui,
père en était bien fier, d'ailleurs.
Cette fois-là, ouais, c'était pas le marteau, j'étais le clou.
Le taureau qui l'a ramassé, il pesait 1100 livres, je veux juste le mentionner.
Non, ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas de bon sens, ce qu'on a fait, cette émission-là. On a tellement ri, puis on allait dans plein de directions. Des fois, il y avait des tests un petit peu plus pertinents, des fois, il y en avait qui n'avaient pas de bon sens, jusqu'à quelle distance on peut se lancer un œuf avant qu'il nous avant qu'il nous casse dans les mains quand on l'attrape. Puis vraiment, ça a été une émission très, très rassembleuse pour les enfants et les jeunes familles.
Alors, Étienne, vous avez fait cette émission-là. À ce moment-là, vous étiez encore actif, hein, vous étiez encore un professionnel, vous étiez... Et tout est comme tombé en ruine, quoi, petit à petit. Je pense que, d'ailleurs, c'est écrit dans le livre, on est en novembre 2009, marque la date, Étienne, la glissade vient de commencer. Et ça, Marc-André, c'est écrit en italique, parce que ça, c'est comme le petit diable dans la tête d'Étienne qui parle. Hein, c'est bien ça, et qui lui dit... Si tu penses que ça va s'arrêter là, mon petit bonhomme, là, attelle-toi parce que tu vas le frapper, le mur.
Tout à fait. Et puis, si vous remarquez, le niveau de langage, il se fait vraiment un peu engueuler, Étienne. Ce diable-là, il se fait vraiment challenger, puis c'est direct, puis c'est arrogant. Et puis, ça m'inspirait. Ce qui m'inspirait, ça, c'est Étienne, dans des moments difficiles, autant il était quelqu'un de flamboyant, puis on était tous derrière lui. Autant quand ça devenait difficile, on était découragés, on se disait, mais avant de comprendre ce phénomène-là de la bête qui était la même chose, ça pouvait pas aller autrement, ça pouvait pas être moins extrême dans cette direction-là. Alors, c'est ça que je voulais exprimer par ces passages-là.
Exactement.
Et tout ça, comme je vous dis, ça se faisait avec Étienne. On a tout lu et relu ensemble à mesure. Fait que je lui avais dit, il va y avoir des bouts, Étienne, tu vas trouver ça dur, je te le dis.
Oui.
Puis vraiment, des fois, il lisait, puis on le faisait ensemble, puis là, il me regardait, il faisait « Oh, ouch! » C'est comme
« Ouch, oui. »
Oh, comme ça.
Puis comme la bête.
Moi, je trouve que ça demandait énormément de courage.
Comme la bête, Étienne, qu'à un moment donné, vous avez voulu même tuer vous-même parce que vous n'en pouviez plus, en quelque part, d'avoir cette bête-là au fond de vous. Hein.
Oui, absolument. Mais en fait, ça commence... Cette histoire-là a été écrite et réécrite des millions de fois. Donc, je ne suis pas le premier à qui ça arrive. Mais ça
bien
commence
sûr.
Avec une soirée anodine. On expérimente quelque chose. Oups, on a du fun. Puis là, tranquillement, pas vite, ça prend de plus en plus d'espace dans notre vie, dans nos décisions, dans notre façon de gérer la suite. Puis oui, je suis allé jusqu'à faire une tentative de suicide tellement j'étais plus capable. Je me détestais.
Violente en plus, c'est ça, parce que vous infligez des coups. Enfin, c'est une violence inouïe. Ah, moi, j'avais les larmes aux yeux, honnêtement, là, quand je lisais ce passage-là.
C'est fou. Puis tu sais, je suis quelqu'un d'extrêmement positif dans la vie. Je pense être quelqu'un de rassembleur, puis qui aime la vie, puis qui aime rire. Puis je repense à cette période noire, là, puis j'en reviens pas, puis je suis privilégié de pouvoir la partager, mon histoire. C'est un peu pour ça que je le fais aussi, parce que il y a personne qui est à l'abri d'avoir une mauvaise passe, puis je souhaite pas que les gens se rendent aussi loin que je me sois rendu, mais des fois, d'accepter que... Tu sais, il y a personne qui va bien à l'année longue.
C'est vrai.
Puis c'est normal d'avoir des passes un petit peu plus difficiles, c'est normal d'aller chercher de l'aide, puis j'étais trop orgueilleux pour le faire. Ou j'allais chercher de l'aide pour acheter la paix, tu sais, pour que Marc-André puis mes collègues puis mes amis aux Alouettes pensent que je prends soin de moi, puis pour qu'ils me sacquent patience un petit bout de temps. Puis c'était pas pour les bonnes raisons, évidemment.
Et puis, il y a, je voulais en parler, les commotions cérébrales. La première que vous subissez, moi, bon, d'une part, j'ai pas les images en tête, mais c'est tellement bien décrit qu'on le voit. Vous le dites très bien, vous êtes le jambon entre les deux tranches de pain, là, et on imagine la tête comme ça qui part. Mais moi, ma grande question, c'est comment se fait-il qu'on vous ait laissé retourner sur le terrain après? Allô? Il y a quelqu'un?
Mais en fait,
c'est fou.
C'est ça qui est touché des commotions cérébrales, c'est que ça passe beaucoup par la communication entre le blessé et les traitants.
Oui, mais enfin, ils ont vu votre tête, Étienne, qui part
mais
comme ça.
Ce choc-là, surprenamment, ce choc-là est très subtil. Et plus subtil que plusieurs autres que j'ai donnés qui ont été violents ou je me suis relevé indemne. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Puis jamais je ne vais blâmer les médecins des organisations pour lesquelles j'ai joué. J'ai menti. Je ne voulais pas l'admettre. J'avais peur de me faire voler mon poste. J'avais peur d'être réputé comme fragile et faible. Puis c'est sur mes épaules, ultimement, tout ça.
Ben, si je peux ajouter quelque chose, c'est que
bien sûr.
Ces organisations-là ont en face d'eux Étienne Boulay, le battant, qui la seule chose qu'il veut, c'est revenir sur le terrain le plus rapidement possible.
Ben oui.
C'est le sens de sa vie. Alors, c'est pas... ça, je pense que c'est juste quand tu n'es pas une victime là-dedans, tu as participé toi aussi.
Ben non, c'est ça. Bien vu.
Oui, je comprends. Puis d'ailleurs, je ne cherche pas non plus à assassiner, mais c'est parce que nous, encore une fois, en tant que spectateurs, moi, je ne me souviens pas forcément de cet accident-là, mais j'en ai vu d'autres. Je me souviens bien, tiens, entre autres, l'accident de Mathieu Proulx, dont vous parlez.
Oui, ouais.
Et je me souviens et je revois Mathieu Proulx sortir debout incapable de poser le pied par terre et c'est un sport d'une violence inouïe et pourtant c'est fou, j'ai jamais senti, j'ai l'impression qu'on se respecte beaucoup entre béliers quoi.
Il y a une belle forme de respect dans, tu sais, le football, bon, c'est un sport évidemment violent, agressif, il y a beaucoup aussi de jasette là, qui se fait entre les jeux au niveau de l'intimidation à ce niveau-là. Mais reste que les règles, il y a un côté très, très militaire au football. Hein,
oui,
donc,
hein.
Au niveau de la préparation, au niveau du respect de la hiérarchie dans une organisation.
De l'arbitre aussi.
Au niveau du respect de l'adversaire, on va se frapper le plus fort qu'on peut, le plus sauvagement possible, puis ensuite de ça, on va se donner la main pour s'aider à se relever.
Exactement. Oui.
Fait qu'il y a un petit côté, il peut y avoir un petit côté gentleman là-dedans que j'aime beaucoup. Ça fait partie du... Tu sais, tout le monde comprend qu'il y a des règles. Ça fait partie du match de vouloir se frapper le plus fort possible pour envoyer un signal à l'autre équipe. Mais puis c'est un peu cette espèce de mix de tout ça qui m'a fait tomber en amour avec ce sport-là.
Bien sûr.
Je pouvais à la fois me défouler. En même temps, c'était encadré très, très strictement.
Étienne Boulay, vous êtes allé au bout de vos rêves. Malheureusement, vous êtes allé aussi au bout de l'abîme. mais dans les deux cas, vous avez... certainement, et vous aiderez encore du monde à se relever, des gens qui ont connu qui vont connaître ou qui connaissent en ce moment des moments douloureux.
Ouais.
Et donc, merci pour ces conférences que vous donnez. Merci aujourd'hui d'utiliser toute cette douleur passée pour faire du bien aux autres. Et puis, Marc-André Chabot, eh bien, continuez d'écrire, hein, parce que ce serait vraiment dommage que vous arrêtiez. Hein.
C'est promis.
Hein, c'est promis.
Oui,
merci à vous deux. Étienne Boulay, j'ai été très, très touchée. Malheureusement, avec la COVID, on ne peut pas se voir, mais au moins de pouvoir vous parler. Puis si un jour on se croise, je vous dirai la grande folle là, qui lit 3 bouquins par semaine, mais qui adore le football américain et canadien, c'est moi. Voilà. Merci à vous deux.
Et
ne manquez pas le parcours d'un battant. C'est maintenant en audio, écrit par Marc-André Chabot, et c'est sur le catalogue livreaudio.vusezvoix.com. Merci encore. Je vous serre fort virtuellement contre moi. Merci Étienne et Marc-André.
Merci beaucoup. Merci.
Un plaisir. Merci beaucoup.
Des livres plein les oreilles, la suite. Et c'est toujours avec Clotilde Seille, et c'est toujours en écoutant Canal M ou encore en écoutant CKVL ou en écoutant Des livres plein les oreilles par une balado, par exemple. Dans la série, je m'étonnerai toujours à quel point tout reste à faire dans le domaine du livre audio. Je me suis penchée cette semaine sur la littérature d'Ernest Hemingway. Est-ce qu'il y en a qui s'écoutent? Restez avec moi, vous allez tout savoir sur le sujet, tout savoir aussi sur une excellente idée que j'aimerais bien présenter un jour ici au Québec. Il s'agit d'un concours du meilleur lecteur en milieu estudiantin, ça se passe en France, avec parmi les membres du jury des noms célèbres qui prêtent souvent leur voix au livre audio, dont Isabelle Carré. Et puis, je vais vous rediffuser une entrevue faite avec Mylène Paquette, qui a, rappelons-le, traversé l'Atlantique à la rame. Alors, pourquoi rediffuser ça? D'abord parce que c'est un excellent bouquin à écouter, qu'il est sur le catalogue livreaudio.vusezvoix.com et que ce sera l'occasion de vous présenter un autre aventurier qui, lui, a traversé le Pacifique à la rame en écoutant des livres audio. Et puis, en guise de bouquin à écouter à tout prix, parmi les nouveautés dans le domaine, je vous recommande avec extrait à l'appui le livre perdu des sortilèges de Déborah Harkness et l'école des soignantes de Martin Winkler. Alors, Ernest Hemingway, pour commencer, allons-nous promener dans les rues de La Havane. Vous aurez sûrement compris que ce n'est pas tiré d'un CD, c'est simplement un tout petit film comme ça qui a été pris par hasard. Je ne sais même pas qui l'a fait, mais j'ai trouvé ça sur le net et j'ai trouvé ça tellement charmant de voir ces deux personnes, ces deux Cubains, en train d'interpréter comme ça spontanément une chanson dans la rue avec une petite fontaine à côté et puis les gens qui se baladent. Bref, La Havane, telle que vous l'aimez peut-être, telle que moi je l'adore et telle qu'Ernest Hemingway avait trouvé un refuge également dans sa vie. Alors Hemingway, une longue bibliographie d'erreurs éditoriales, c'est un article d'Antoine Houry que j'ai trouvé dans actualité.com et ça m'a donné envie d'aller fouiller un petit peu tout ça. Il nous dit, Antoine Houry, qu'une somme d'études consacrées à Ernest Hemingway, dont la parution d'une autre biographie est prévue dans quelques jours, révèle que les éditions successives des œuvres du grand auteur américain sont truffées de fautes de frappe survenues lors des retranscriptions des manuscrits. Des erreurs qui n'ont pas forcément été corrigées à l'occasion de nouvelles éditions, et c'est ce que déplorent les auteurs de cette étude-là. Près d'un siècle d'histoire éditoriale, mais des erreurs qui persistent, des fautes de frappe, des noms qui sont changés, par exemple, à un moment donné, dans Le Soleil se lève aussi, qu'Hemingway a écrit en 1926, on y parle d'un toréador qui s'appelle Marcial Lalanda, qui devient Marcial Salanda. Bon, c'est vraiment truffé comme ça d'erreurs. L'éditeur américain, Scribner, ne se montre pas systématiquement, d'ailleurs opposé aux nouvelles éditions. Faute ou pas, la bibliothèque Hemingway devrait ainsi voir le jour prochainement, supervisée par nul autre que Sean Hemingway, qui est le petit-fils de l'écrivain. C'est une femme. Ah non, c'est ça, le petit-fils. Et c'est la bibliothèque qui va s'appuyer sur des documents originaux conservés par la bibliothèque présidentielle John F. Kennedy. Et on nous dit donc là qu'à partir de ce moment-là, cette bibliothèque et les prochaines éditions devront se montrer irréprochables si tant est que ce soit possible. Alors ça m'a amusé de lire cet article-là et de vous le partager. Mais je me suis dit, au fait, qu'est-ce qui existe en audio d'Hemingway ? En livre audio. Eh bien, il n'y a pas grand-chose, mes amis. Honnêtement, là où j'en ai trouvé le plus, c'est au SQLA, le Service québécois du livre adapté. Alors, si vous présentez un problème visuel quelconque qui vous empêche d'avoir accès à l'imprimé, eh bien, si vous êtes inscrit au SQLA, vous pouvez trouver, ma foi, pas mal de livres d'Hemingway. 50 000 $, Le Jardin d'Éden, Les Neiges du Kilimandjaro et autres nouvelles. Également, Paris est une fête. Évidemment, le fameux Pour qui sonne le glas, qui est un petit peu son incontournable. Le Soleil se lève aussi, dont je parlais, et Le Vieil Homme et la Mer. Qu'est-ce qui existe en version commerciale ? Eh bien, j'allais vous dire rien en français. Non, c'est pas vrai. J'ai trouvé une vieille version du Vieil homme et la mer, lue par Jacques Bonnefé, comédien français. Mais c'est la seule version française et c'est le seul livre en français que j'ai trouvé d'Hemingway. Le pire, c'est que j'en ai trouvé en danois, en finnois, en coréen, en espagnol, en allemand, en anglais, évidemment. Mais en français, nothing. C'est quand même bizarre. Alors, au moins, je vais vous présenter un petit extrait du Vieil homme et la mer, lu par Jacques Bonnefé en français, que vous retrouvez sur la plupart des plateformes de livres audio. Et puis, il y aura un autre extrait en anglais. Honnêtement, j'en attendais un petit peu plus quand j'ai vu qui le lisait. C'est nul autre que Donald Sutherland. Et je m'étais dit, oh, wow! Bon, je suis un petit peu déçu, mais quand même. Et c'est en anglais, mais après tout, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui êtes capables, et bravo, d'écouter des livres en français et en anglais. Alors, pourquoi pas?
Lentement, régulièrement, la ligne montait. Soudain, l'océan se souleva en avant de la barque et le poisson apparut. Il n'en finissait pas de sortir. L'eau ruisselait le long de ses flancs. Il étincelait dans la lumière. Sa tête et son dos étaient violet foncé. Le soleil éclairait en plein ses larges rayures lilas. Il avait un nez très long, aussi long qu'une batte de baseball et pointu comme une épée. Le poisson émergea tout entier, puis avec l'aisance d'un bon nageur, replongea. Le vieux eut le temps d'apercevoir la grande queue en forme de faux qui s'enfonçait, tandis que la ligne recommençait à galoper. « Il a deux pieds de plus que la barque !» dit le vieux.
These were relics of his wife. Once there had been a tinted photograph of his wife on the wall, but he had taken it down because it made him too lonely to see it, and it was on the shelf in the corner under his clean shirt. What do you have to eat? The boy asked. A pot of yellow rice with fish. Do you want some? No, I will eat at home. Do you want me to make the fire? No, I will make it later on. Or I may eat the rice cold. May I take the castanet? Of course. There was no castanet, and the boy remembered when they had sold it. But they went through this fiction every day. There was no pot of yellow rice and fish, and the boy knew this too.
Personnellement, si on me donnait à lire pour qui sont nos glas en français, ça ne me dérangerait pas du tout, mais alors du tout, puisque comme je vous le disais, pour l'instant, ça n'existe pas, du moins en version commerciale, mais je vous rappelle qu'au SQLA, au Service québécois du livre adapté, il y a énormément de livres d'Ernest Hemingway qu'on peut se glisser par les oreilles, et j'imagine aussi que sur d'autres plateformes européennes, comme Valentin Huy et compagnie aussi, c'est sûrement possible de télécharger tous ces petits chefs-d'œuvre absolument gratuitement. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah oui, ça, quelle heureuse initiative. Je me suis dit, oh, pourquoi on ne ferait pas ça ici? Apprendre à lire à voix haute avec la grande librairie. C'est un article de Victor de Sepaussy, j'espère que je prononce bien. Qui sera sacré meilleur lecteur ou meilleure lectrice de France? Mais attendez, on ne parle pas de lecteurs professionnels, on parle d'étudiants. C'est l'heure du verdict apparemment pour la première édition de Si on lisait à voix haute, un grand concours imaginé par François Bunel et organisé par France Télévisions, entre autres. 12 finalistes, 6 collégiens, 6 lycéens, venus... lycéens, c'est... les collégiens, ben ici c'est le cégep, et puis lycéens, c'est vraiment... c'est le secondaire, hein, c'est bien ça, je pense ne pas trop me mélanger les pinceaux. Donc, ils sont 12... venus de toute la France et ils vont, et en fait ils ont déjà parce que la finale était le mercredi 26 août, mais peu importe, donc ils ont tout fait pour remporter cette première finale lors d'une grande soirée spéciale qui a été diffusée, imaginée sur France 5 à la télévision. Un grand concours de lecture à voix haute, oh wow, ouvert à tous les collégiens et lycéens de France. Vous voulez savoir combien se sont inscrits? Près de 140 000 élèves se sont inscrits. Alors, tout au long de l'année, ces élèves-là ont travaillé en classe avec leurs professeurs et il y en a 12 d'entre eux qui ont franchi les sélections et qui se sont retrouvés présents pour la finale. Et afin de compléter leur préparation, ils ont pu, ces jeunes finalistes, échanger avec un ou plusieurs comédiens lors de séances de travail individuel, le rêve total. Et pour départager ces 12 finalistes, qui ont été répartis en deux catégories, collège et lycée, il y avait un jury composé d'écrivains et de comédiens, dont Isabelle Carré, comédienne, récompensée quand même deux fois aux Molières, lauréate du César de la meilleure actrice en 2002. Pour se souvenir aussi des belles choses, elle est aussi romancière. Son deuxième roman paraîtra à la rentrée. Elle a lu sur scène des textes de Le Clésio, Pessoa, Bobin, et elle a prêté sa voix à de nombreux livres audio. Également dans les membres du jury, Éric Emmanuel Schmitt, romancier, dramaturge, metteur en scène, comédien, que j'ai déjà eu d'ailleurs, que j'ai déjà reçu à cette émission des livres pleins les oreilles. Également Cécile Coulon, une jeune romancière, et puis Alain Mamboukou, qui a été quand même le prix Renaudot en 2006 pour son roman « Verre cassé ». Et donc, il y a eu cette soirée merveilleuse le 28 août dernier. J'ai cherché partout s'il existait des extraits de cette soirée pour vous faire entendre ces jeunes lecteurs. Je n'en ai pas trouvé, mais encore une fois, je voulais vous partager ça parce que si quelqu'un pouvait m'entendre et se dire « oui, 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 faisons ça aussi au Québec, j'adorerais tellement cela ». Mais j'ai au moins pour vous un extrait d'un livre lu par Isabelle Carré dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Et quel livre, extrait de Boris Vian, « L'écume des jours » par Isabelle Carré, qui faisait partie donc des membres du jury qui ont départagé ces comédiens en herbe, lycéens et cégepiens français.
Colin caressa une des souris en passant. Elle avait de très longues moustaches noires. Elle était grise et mince, illustrée à miracle. Le cuisinier les nourrissait très bien, sans les laisser grossir trop. Les souris ne faisaient pas de bruit dans la journée et jouaient seulement dans le couloir. Colin poussa la porte émaillée de la cuisine. Le cuisinier Nicolas surveillait son tableau de bord. Il était assis devant un pupitre, également émaillé de jaune clair, et qui portait des cadrans correspondant aux divers appareils culinaires alignés le long des murs. L'aiguille du four électrique, réglée pour la dinde rôtie, oscillait entre « presque » et « à point ». Il allait être temps de la retirer. Nicolas pressa un bouton vert, ce qui déclenchait le palpeur sensitif. Celui-ci pénétra sans rencontrer de résistance et l'aiguille atteignait à point à ce moment. D'un geste rapide, Nicolas coupa le courant du four et mit en marche le chauffe-assiette. « Ce sera bon ?» demanda Colin. « Monsieur peut en être sûr, » affirma Nicolas. « La dinde était parfaitement calibrée. »
Allez, allez, allons, à chaque coup de rame, prends la force dans la taille et dans les talons. Allez, allez, allons, à chaque coup de pioche, prends la force, c'est fastoche de ma chanson, de ma chanson. Allez, allez, allons, allons.
Allons, allez, allez, à chaque coup de rame interprétée, écrite d'ailleurs aussi cette chanson-là et interprétée-là par Camille. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, enfin, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous ai diffusé ça? C'est pour mieux aller vers un jeune homme, un aventurier letton du nom de Carlis Bardelis, qui a passé 140 jours à traverser l'océan Pacifique à la rame, sans rencontrer un seul être humain. C'est quand même quelque chose. Pendant le confinement, ils ne savaient pas quoi foutre. Il a dit, tiens, je vais traverser le Pacifique à la rame. Bardelis a commencé son voyage au Pérou. C'était en juillet 2018. Il a atteint la Polynésie française près de 5 mois plus tard. Et il a terminé en Malaisie en juin 2020. En cours de route, il a été percuté par des requins au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a dû utiliser une batterie pour remplacer une ancre perdue et il a évité de justesse des accidents avec d'autres bateaux. Si nous ne pouvons pas changer les circonstances, nous pouvons changer nos attitudes à leur égard, a-t-il déclaré à l'AFP dans sa Lettonie natale après avoir passé 2 semaines en quarantaine obligatoire après son retour de Malaisie. Beaucoup de gens m'ont demandé si je ne perdais pas la tête ou si je ne devenais pas fou, a déclaré cet homme de 35 ans, expliquant « Non, j'aime juste ça, parce que c'est ce que j'ai choisi de faire. » Alors, virus ou pas, un aventurier letton traverse en solitaire le Pacifique à la rame, c'est ce qu'il a fait, 26 000 kilomètres. On peut d'ailleurs suivre tout son parcours, on peut encore le suivre ce parcours sur sa page Facebook « Board of Borders ». Pour se rendre de l'Amérique du Sud en Asie sans moteur et sans voile, il a ramé, mes amis, jusqu'à 13 heures par jour sur son bateau en contreplaqué de 7 mètres de long. C'est pas si long que ça, ça, 7 mètres, hein? Atteignant 2 mètres à son point le plus large, imaginez, 2 mètres. Le bateau dispose uniquement d'une toute petite cabine pour dormir et stocker des fournitures et du matériel. C'est vraiment, j'imagine que comme moi, quand vous voyez des gens comme lui, comme Mylène Paquette, réaliser de pareilles choses, je me souviens avoir demandé à Mylène Paquette, mais enfin... Il y a des fois où tu devais te sentir comme dans une coquille de noix. Elle dit non, je me sentais pas, j'étais dans une coquille de noix. Mais elle disait non, j'ai toujours eu confiance, bizarrement. Ben, je pense que c'est la même chose pour lui. Et alors, ce qui m'a donné envie de vous parler de cet individu-là dans une émission littéraire, c'est que, entre autres, l'AFP, le journaliste n'a pas été cité, c'est un article qui est sorti dans le Journal de Montréal, le journaliste lui a demandé, mais qu'est-ce qu'on fait quand on rame comme ça pendant 13-14 heures par jour? On ne peut pas juste ramer. Et il a répondu « Ah, non, effectivement, j'ai écouté beaucoup de livres audio. » C'est dommage, le journaliste ne lui a pas demandé lesquels. Moi, je l'aurais fait. Lesquels livres audio avez-vous écouté comme ça pendant que vous ramiez? Ce que j'espère, c'est qu'il a peut-être écouté l'aventure de Mylène Paquette. Et je vous propose, moi, de réentendre 2 extraits de ce livre « Dépasser l'horizon » disponible sur notre catalogue livreaudio.vusezvoix.com. C'est une entrevue que Mylène Paquette a eu la gentillesse de me donner après la sortie du livre en audio qu'elle a lu elle-même.
Au son des cornes de brume des bateaux qui me souhaitent bon voyage, je me dégage du quai. Tellement je souris, j'en ai mal aux lèvres, aux joues. Lentement, non sans embarras, je donne mes premiers coups de rame. Je suis aux premières loges de mon rêve. Enfin, je touche à l'instant qui m'envahit de sensations. J'ai la tête pleine de papillons. Je sens que la mer est mienne et que l'avenir m'appartient droit devant.
Rame, 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 rame. On avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller, tais-toi et rame.
Je suis fragile. Comme un petit oiseau aux ailes brisées, aux rêves dépouillés de lumière, je panse mes plaies et me refais doucement de santé. Je suis à bout de force à cause du surmenage des derniers mois. Trop souvent fleur de peau, je me cache pour pleurer. Je me sens ingrate et égoïste d'imposer mon choix à mes parents de la sorte. J'ai honte qu'ils soient obligés de m'accueillir à la maison après que je l'ai quittée à l'âge de 18 ans. Les côtoyer tous les jours me fait du bien. Et comme pour leur faire honneur, je puise dans ce qui me reste d'orgueil pour continuer à travailler d'arrache-pied depuis la maison familiale. Un soir, alors que j'essuie encore une vague d'indifférence totale face à mes nombreuses demandes de commandite, épuisée et défaite, j'éclate en sanglots devant mes courriels. Papa, installé plus loin sur son sofa, ouvre les bras et je cours m'y blottir. Il me console du mieux qu'il peut. Ce soir-là, allongé avec mes mouchoirs sur le canapé, la tête posée sur la cuisse de papa, mes larmes se déversent et mes nerfs lâchent. Je fais des excuses les plus sincères à papa. Je lui demande pardon d'avoir gâché ma vie avec cette idée folle. Je lui donne raison. J'abdique. ce n'était pas une bonne idée, j'abandonne.
Mais elle n'a pas abandonné et après, ben vous connaissez l'histoire, elle a traversé l'Atlantique et ce livre est né que vous pouvez maintenant lire ou encore mieux écouter, lu par Mylène Paquette, « Dépasser l'horizon ». Une nouvelle parution chez Audiolib pour finir cette émission. Ça s'appelle « Le livre perdu des sortilèges ». C'est un livre de Deborah Harkness, lu par Elena Kopians. Et le résumé, d'après ce qu'on nous en dit, parce que je n'ai pas eu le temps de l'écouter cette semaine, mais on parle d'une femme, Diana Bishop, qui est la dernière d'une longue lignée de sorcières. Tiens, au fait, c'est vrai, j'en parlais la semaine dernière de sorcières. Ah ben, les sorcières reviennent cette semaine. Mais elle a renoncé, Diana Bishop, depuis longtemps à son héritage familial pour privilégier ses recherches universitaires. C'est une vie simple et ordinaire jusqu'au jour où elle emprunte un manuscrit alchimique, Lashmol 782. Elle ignore alors qu'elle vient de réveiller un ancien et terrible secret et que tous, démons, sorcières et vampires, le convoitent ardemment, parmi eux Matthew Clermont, un vampire aussi redoutable qu'énigmatique. « Un tueur, lui a-t-on dit. » Diana se retrouve très vite au cœur de la tourmente entre un manuscrit maudit et un amour impossible. C'est sorti le 22 juillet dernier. L'éditeur d'origine, c'est Kalman Levy et c'est Audiolib qui a produit la version audio dont voici un extrait.
Du bout des doigts, j'aurais pu en savoir plus sans même l'ouvrir. Ma tante Sarah faisait ainsi pour savoir ce que lui réservait son courrier, au cas où l'enveloppe aurait contenu une facture qu'elle n'avait pas envie de payer. Ainsi, elle pouvait plaider l'ignorance quand il s'avérait qu'elle devait de l'argent à la compagnie d'électricité. Les chiffres dorés sur le dos me firent un clin d'œil. Je m'assis et réfléchis. Ignorer la magie, ouvrir le manuscrit et essayer de le lire comme un être humain, mettre le livre ensorcelé de côté et m'en aller. Sarah aurait gloussé de plaisir devant mon dilemme. Elle avait toujours soutenu que mes efforts pour garder mes distances avec la magie étaient vains. Mais j'agissais ainsi depuis les obsèques de mes parents. Les sorcières présentes avaient cherché à discerner si le sang des Bishop et des Proctor coulait bien dans mes veines, tout en m'entourant de leur sympathie et en déclarant que je ne tarderais pas à prendre la place de ma mère dans le coven local. Certaines avaient murmuré que mes parents avaient été imprudents en se mariant. « Trop de pouvoir !» disait-elle, pensant que je n'écoutais pas. Il ne pouvait qu'attirer l'attention, quand bien même il n'aurait pas étudié les rites religieux antiques. Cela avait suffi pour que je mette la mort de mes parents sur le compte de leur pouvoir surnaturel et que je cherche à mener un autre genre de vie.
Ah, et puis un petit dernier pour la route, l'école des soignantes de Martin Winkler, lu par Gaëlle Camilindi. C'est dans la collection Écoutez lire, série numérique Gallimard. On parle d'un homme qui rentre dans un univers de femmes, dans un hôpital public où généralement seules les femmes sont admises. Eh bien lui, c'est un homme. On va écouter un extrait de ça.
Par quoi je commence? Ok. J'ai grandi entre deux mères, Sarah et Myriam. Elles m'ont dit très tôt que je n'étais pas leur enfant biologique. Elles ont répondu à toutes les questions que je leur ai posées quand elles le pouvaient. Mais elles ne m'ont pas imposé des réponses à des questions que je ne posais pas. Elles ne m'ont pas interdit de parler de mon adoption, mais enfant, quand mes camarades de classe me cassaient les pieds, je répondais qu'elles étaient mes deux tantes, une de chaque côté de la famille, et qu'elles m'avaient recueilli à la mort de mes parents. J'aimais bien raconter mon histoire comme ça, comme un conte de fées. Je ne savais pas à quel point j'étais près de la vérité. De toute manière, à Brenne, où elles se sont installées quelques semaines après m'avoir adopté, personne ne nous connaissait, et toutes les histoires étaient crédibles. Surtout venant d'un enfant qui parlait calmement, et qui écoutait sagement. Oui, on m'a souvent dit que j'étais très calme. C'est vrai que j'ai l'air calme. Il faut dire que j'ai grandi entouré et protégé, j'avais des mères calmes, ça m'a imprégné. Et puis ça m'a permis de savoir qui j'étais et qui je n'étais pas. En revanche, ça ne m'a pas aidé à dire qui je suis. Ça, j'ai toujours trouvé difficile de le faire, même avec elle. Sarah et Myriam étaient loin d'être parfaites, mais pour moi, elles ont été aussi bonnes que possible. Elles ne m'ont jamais traité comme un objet. Elles ne m'ont jamais engueulé ou humilié quand je ne réussissais pas, mais elles ne se sont jamais extasiées et ne m'ont jamais utilisé comme leur faire valoir non plus quand je réussissais. Elles m'ont toujours soutenu et consolé quand j'avais du chagrin. Du moins quand j'osais leur dire que j'en avais.
Voilà cet extrait de L'école des soignantes de Martin Winkler, lu par Gaëlle Camilindi. L'école des soignantes, ou cet hôpital qui nourrit beaucoup de préjugés envers les hommes qui viennent travailler dans ce contexte-là. Alors, c'est ainsi que va se refermer cette émission-là, réalisée, animée pour vous par Clotilde Sey. Merci aux auditeurs de CKVL, de Canal M et tous ceux qui nous écoutent en podcast. Merci aussi à mon ami Jean-Sébastien Laliberté, à la régie encore aujourd'hui. Et puis, énorme merci à ces deux invités de la première demi-heure. J'ai nommé Étienne Boulet et son biographe, oui, Marc-André Chabot. Un livre vraiment étonnant. Maintenant disponible chez livreaudio.vuesetvoix.com, enregistré par Marc Bélier. Voilà, c'est un... Ah oui, ça s'appelle, je vous l'ai dit, Le parcours d'un battant. Merci à vous toutes et vous tous d'avoir été là. Je vous souhaite une belle semaine. Glissez-vous plein de livres entre les oreilles. Ça fait du bien. Allez, salut.